100% d'Europe, Léa-Lisa Westerhoff.
Bonjour, l'héritage d'Elisabeth II en Europe. Alors que le monde entier s'apprête à assister aux funérailles de la souveraine lundi, sur l'île irlandaise, la disparition de la reine suscite des réactions très contrastées, voire divisées. Si de nombreux politiciens irlandais ont salué les efforts de la reine Elisabeth pour réconcilier les deux îles, en Irlande du Nord, la monarchie demeure un sujet de discorde et rouvre de nombreuses blessures du passé. Le reportage à Dublin de Laura Tauchanoff.
La mort de la reine réveille un traumatisme post-colonial en République d'Irlande, la partie européenne de l'île. Des Irlandais comme Bill, qui ont bonne mémoire, explique le retraité, un œil sur le drapeau du Parlement en Berne et qui n'oublie pas par exemple l'inaction de la monarchie lorsqu'un million de personnes meurent pendant la grande famine du 19e siècle.
Ok, elle est venue à Dublin, elle a dit quelques mots en irlandais, mais c'était juste nous servir la soupe, ça. Pardon, mais qu'elle aille se faire voir. Il faut qu'on avance, certes, mais il y a beaucoup de plaies ouvertes. Je suis sûr que si on remonte dans ma famille, on verra que certains ont été tués par l'Empire britannique. C'est ses ancêtres et c'est toujours là.
100 ans après, les traces de la guerre d'indépendance sont donc encore bien visibles. 800 ans de domination britannique ne s'oublient pas si vite. Les histoires de violence passent de génération en génération et beaucoup de jeunes, comme Grania, 22 ans, grandissent avec des préjugés.
On nous apprend à détester les Anglais. En tant que patriote, je ne les aime pas, même si je ne suis pas non plus à l'aise à l'idée qu'on célèbre la mort d'une vieille dame. Tous les gens de mon âge sont aux anges. Surtout qu'on va juste avoir un autre monarque à la place, un homme en plus. Alors ça ne va pas s'améliorer.
Si on traverse la frontière, les réactions dépendent de la couleur politique et religieuse. Nous sommes à Sandy Row, l'un des principaux quartiers loyalistes de Belfast. Pour le savoir, il suffit de regarder le nombre de drapeaux de l'Union Jack qui flottent aux fenêtres des maisons en briques rouges. Ici, on est protestant et déterminé à rester dans le Royaume-Uni. Au pied d'une fresque géante à l'effigie du roi protestant William III, Robert se repose sur son banc préféré.
Je suis né là il y a bientôt 91 ans et j'ai toujours vécu là. Les gens qui ont construit le Titanic vivaient dans ce quartier. La reine est venue en 1953 après son couronnement. Toute la rue est protestante avec une tradition britannique. Le roi aura un super accueil ici. On veut rester britannique, on s'est battu et j'ai perdu des amis tués par l'IRA. De meilleures joies arrivent, même s'il ne m'en reste pas beaucoup.
Sans leur reine, les loyalistes se sentent orphelins et craignent pour leur place dans le pays, alors qu'ils n'ont plus la majorité politique et que le prochain recensement attendu à l'automne devrait confirmer qu'ils n'ont plus la majorité ethnique non plus. En promenant leurs chiens, Jacqueline et Andrea se demandent à quoi s'attendre avec leur nouveau roi.
Je ne crois pas qu'il ait beaucoup d'influence sur l'avenir ici. Il ne peut pas intervenir en politique, mais on aimerait qu'il règle le protocole nord-irlandais.
C'est partout aux infos. On voit qu'il a une influence et qu'il rencontre les ministres tous les jours. Ils le prennent forcément en compte. Il faudrait que le roi affiche publiquement son ambition pour ce pays et qu'il relance notre assemblée parce qu'on n'a pas de gouvernement depuis un moment. On a plein de problèmes. Il pourrait avoir une influence positive.
5 jours après la mort de la reine, le nouveau roi s'est rendu à Belfast pour rencontrer des dirigeants politiques et participer à une cérémonie d'hommage. Les loyalistes, eux, en profitent pour s'affirmer dans la rue. Charles III a salué les efforts de sa mère pour réunir ceux que l'histoire a justement séparés. Même si ces efforts n'ont pas vraiment payé, regrette Katie, très émue d'avoir aperçu son nouveau roi quelques secondes.
Quand la reine est morte, l'autre camp a célébré en tirant des feux d'artifice. Il n'y a plus de bombes ou de tirs, mais pas de paix. Il y a tellement d'amertume.
S'il y a bien des Irlandais qui n'ont pas essayé de serrer la main du nouveau roi, ce sont bien les républicains majoritairement catholiques et en faveur d'une réunification de l'île. En passant devant la cathédrale Sainte-Anne, Chloé et Kate ne savent même pas pourquoi la foule chante derrière une barrière de sécurité.
Une inconnue est morte, ça n'a aucun impact sur ma vie, si ce n'est que la monnaie va changer. Ils dépensent des millions sur un enterrement en pleine crise.
En Irlande du Nord, on nous laisse de côté. Si vous regardez la télé, il n'y a jamais rien sur nous. Pourquoi faisons-nous partie du Royaume-Uni si vous vous en fichez de nous ?
La mort de la reine montre une fois de plus à quel point l'Irlande du Nord est divisée. La guerre civile est terminée depuis près de 25 ans, mais la province britannique s'écharpe encore sur son statut dans la région. Un débat qui a déjà coûté la vie à plus de 3400 personnes et qui en a blessé plus de 47 000.
Alors que l'inflation est à son niveau le plus élevé dans la zone euro depuis 20 ans, en Turquie, la montée des prix ne montre aucun signe de ralentissement, plus 90% en un an. Pour les petites entreprises comme les exploitations agricoles, il est de plus en plus difficile de survivre, avec des coûts de production qui grimpent en flèche et des intermédiaires qui engloutissent une partie des bénéfices. Selon des chiffres publiés cette semaine, en Turquie, une pomme se vend en moyenne 8 fois plus cher en magasin que le prix d'achat au producteur. Face à ce problème, les coopératives agricoles et la vente directe aux consommateurs redeviennent particulièrement attrayantes pour vendeurs et consommateurs. Reportage sur le marché hebdomadaire de la coopérative de Kadıköy à Istanbul, un des rares exemples de vente directe dans le pays où ce secteur est encore très peu organisé. Anand Lohar.
Saïm et Nejla, un couple de retraités, tirent leur chariot de course rouge entre des étals qui, déjà, en cette fin de matinée, commencent à se clairsemer. Ici, souvent, les vendeurs connaissent les clients et les clients savent où pousser les fruits et légumes qu'ils achètent. C'est la particularité de ce marché municipal. Seuls les agriculteurs d'Istanbul peuvent y vendre leurs produits, soit environ 4000 personnes sur 16 millions d'habitants. Et pour Nejla, cela change tout.
Ce sont des villageois, des paysans, j'ai confiance en eux. Il n'y a aucun intermédiaire entre producteurs et consommateurs. Et ça se ressent au niveau des prix. Vous voyez, ces haricots rouges, je les ai payés 25 livres le kilo contre 45 au supermarché. C'est une différence énorme. C'est aussi pour ça qu'on préfère venir ici.
En Turquie, l'inflation est dans toutes les têtes, dans toutes les conversations. Elle a atteint officiellement un taux de 80% sur un an au mois d'août. C'est un record mondial et en Turquie même du jamais vu depuis 25 ans. Presque tous les foyers en souffrent, notamment ceux de la classe moyenne, comme Nejla et son mari qui, après une carrière dans la fonction publique, aspirait à une retraite à l'abri du besoin.
On doit serrer la ceinture.
On a dû vendre la voiture, on n'a plus de voiture.
Et puis on ne remplit plus le chariot comme avant. Au lieu d'acheter deux bottes de radis, on en achète une. Au lieu de 2 kilos de tomates, un seul.
Juste après les transports, les denrées alimentaires sont les biens de consommation dont le prix a le plus augmenté, 90% sur un an. D'abord parce que le coût des intrants agricoles, les coûts de production pour les agriculteurs, a bondi sur la même période, plus 135%. Une hausse principalement due à la flambée des prix de l'énergie et à la chute de la monnaie, la livre, par rapport au dollar, qui décuple les prix de tous les intrants importés. Derrière son étal de légumes, Sevil Yılmaz déplore de ne plus proposer ce qui faisait la réputation de sa petite exploitation, les champignons, plus précisément les pleurotes.
Les tarifs de l'électricité ont encore augmenté de 40% en septembre. J'ai dû arrêter les champignons, la serre me coûtait trop cher. Comme il n'y a presque plus de champignons, ceux que vous trouvez sur les marchés sont vendus 50 ou 60 livres le kilo et jusqu'à 85 livres le kilo dans les grandes surfaces. Des champignons que je vendais 25 livres l'an dernier pour rentrer dans mes frais. Aujourd'hui, il faudrait que je les vende à 75 livres le kilo. Mais alors, qui les achèterait ?
L'autre raison de la hausse des prix, ce sont tous les intermédiaires qui s'immiscent entre producteurs et consommateurs et font gonfler les étiquettes à chaque étape du transport, d'autant plus si les produits arrivent d'une autre région de Turquie. Selon l'Union des chambres agricoles, en août, une pomme était vendue en moyenne 8 fois plus chère en magasin que le prix payé au producteur. 4 fois plus cher pour une laitue, 3 fois plus pour un citron. C'est le double intérêt de ce marché de Kadıköy sur la rive asiatique d'Istanbul que la mairie met chaque dimanche à disposition des agriculteurs locaux. Encourager les circuits courts et supprimer les intermédiaires. Ahmet Atalık, responsable des services agricoles de la ville.
Évidemment, la mairie ne peut pas fixer les prix. Nous sommes dans une économie de marché. Si un producteur veut vendre son produit 10 livres au lieu de 5, il est libre de le faire. Mais nous demandons aux agriculteurs de nous aider à promouvoir ce modèle et ils nous donnent raison en vendant leurs produits un peu moins cher que les prix du marché.
Faik Tezcan, producteur de brocolis, laitue et autres légumes verts, assure y trouver son compte.
Non seulement je vends directement à mes clients des produits frais récoltés la veille, mais je les vends à un bon prix, ou plutôt j'ai l'impression que mes produits reçoivent le prix qu'ils méritent.
Faik, qui porte un polo vert assorti à ses yeux, confie pourtant que les temps sont durs, comme pour tous les agriculteurs croisés sur ce marché.
Un légume que je vendais 2 livres l'an dernier, je le vends 5 livres cette année, mais ça ne suffit pas à couvrir la hausse de mes coûts. Mon chiffre d'affaires a baissé de 30% sur un an. Je ne pense pas pouvoir tenir encore longtemps comme ça.
S'ils sont effectivement une solution à l'inflation, les marchés de producteurs sont une rareté en Turquie. Istanbul n'en compte que 2 gérés par la mairie. Et la mairie ne peut pas tout, souligne Ahmet Atalık, le responsable municipal.
Dans de nombreux pays, les agriculteurs s'organisent en coopératives pour créer leur propre réseau de vente aux consommateurs. En Turquie, ce modèle n'est que trop peu développé parce qu'il n'y a pas de politique nationale pour l'aider à se développer. Et pour sortir enfin d'un système où le producteur, dépendant d'intermédiaires pour vendre ses produits, s'estime heureux s'il réussit à rembourser ses coûts de production.
Ahmet Atalık craint que la crise actuelle pousse encore plus d'agriculteurs turcs à cesser leur activité. Une tendance déjà à l'œuvre depuis des décennies, dans un pays de plus en plus dépendant des importations agricoles.
Direction l'Italie, où à la fin du 19e siècle, des centaines de personnes venues des zones montagneuses du nord du pays ont immigré à Paris pour s'occuper de chaudières à charbon. Un métier aujourd'hui disparu et un chapitre de l'histoire de l'immigration italienne très peu connu, jusqu'à la publication du livre de deux chercheurs, Salvatore Palida et Maurizio Catani. Les Scaldini, c'est le titre de l'ouvrage paru en français en juin dernier. Et vous l'avez lu pour nous, Cécile Debarge.
Sans le travail de recherche des deux auteurs, ce métier aurait été complètement oublié. Les chiffres ne sont pas énormes. Cela a concerné au maximum de l'activité 500 travailleurs environ à Paris, donc au total, au fil des années, quelques milliers de personnes. Ils démarraient en général vers 4-5 heures du matin jusqu'à 11 heures, travaillaient dans les caves des immeubles le plus souvent, ce qui explique aussi qu'on ne se souvienne pas d'eux. Personne ne les voyait. Très peu d'informations officielles existent sur eux, comme l'explique Salvatore Palida, l'un des co-auteurs.
Ce métier était d'ailleurs inconnu aussi par les syndicats, par l'administration publique. Ils n'étaient pas classés comme chauffeurs de chaudière à charbon. Ils étaient mis en règle comme fumistes ou des travailleurs, des charbonniers, qui étaient tous des ouvriers.
À l'époque, les Parisiens qui pouvaient se le permettre se chauffaient au charbon. Les charbonniers leur amenaient la matière première, mais avant de pouvoir l'utiliser, il fallait nettoyer les chaudières. Elles étaient énormes, pouvaient contenir parfois plus de 1000 kilos de charbon. Forcément, cela demandait un gros travail pour en retirer les cendres, les remplir de nouveau. C'était le travail des Scaldini. Ils organisaient souvent une tournée, si possible avec des habitations pas trop éloignées les unes des autres, plutôt dans les quartiers les plus aisés de la capitale. On retrouve par exemple beaucoup de Scaldini qui avaient élu domicile à Boulogne-Billancourt, à l'ouest de Paris. Ils pouvaient aussi traverser toute la ville en mobylette pour aller faire l'entretien des chaudières. Beaucoup retournent dans le village natal de leur aïeul régulièrement pendant les vacances. C'est cette particularité de la migration des Scaldini que détaille Salvatore Palida.
Toute leur migration était fondée sur le fait qu'ils habitaient moitié de l'année à Paris et en région parisienne et moitié de l'année au village. Et ils gardaient l'importance aussi du point de vue de, par exemple, l'investissement des épargnes. Ils ont tous refait une belle maison au village d'origine. Ils ont tous fait le tombeau de famille dans le cimetière du village d'origine.
Un détail qui raconte une époque où les migrants étaient européens et sans le sou. On parle ici de montagnards, originaires de villages souvent peu développés. Ils venaient tous des Apennins, côté Émilie-Romagne, entre la province de Parme et de Plaisance, pour se construire une vie meilleure en France. À la lecture, un détail interpelle particulièrement, ce sont leurs conditions de voyage.
Au 19e siècle, ils partaient à pied pour aller jusqu'à Londres.
Des migrants qui parcouraient des milliers de kilomètres et traversaient les montagnes pour passer la frontière entre la France et l'Italie. L'écho avec l'actualité est riche d'enseignements.
Merci Cécile Debarge, à bientôt. Au Royaume-Uni, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Les médecins anglais vont désormais pouvoir prescrire à leurs patients des activités physiques. Plus qu'un simple loisir, le sport devient un véritable complément de traitement. Car faire du sport, c'est bon pour sa santé physique, mais aussi mentale, Clémence Pénard.
Et oui, quand ça ne va pas, on n'y pense pas forcément, mais faire du sport, ça aide. Loin de moi l'idée de passer pour une addicte de la course à pied, mais les études le prouvent. Bouger permet de sécréter des hormones de bien-être. Sérotonine, dopamine, endorphine, tout ce qui contribue à notre bonheur, en fait, c'est scientifique. Alors, outre-Manche, on a confié cette mission aux médecins. En plus d'un suivi médical ou psychologique, les patients devront maintenant déchiffrer sur l'ordonnance la ligne activité sportive. Du vélo, de la natation et pourquoi pas de la Zumba. Ce programme pilote prendra fin en 2025 et d'ici là, 900 000 Britanniques devraient en bénéficier. Et ça s'appelle des prescriptions sociales. Sociales parce qu'en plus d'être en bonne santé, faire plus d'exercices permet aussi de reprendre confiance en soi et même de traiter des troubles mentaux selon l'Association européenne de psychiatrie. En Europe, avant la pandémie, une personne sur six souffrait d'anxiété ou de dépression et avec le Covid, ce sont les jeunes qui ont été les plus touchés. La moitié des 15-25 ans ont connu ces troubles avec les confinements. On espère également que ces prescriptions sportives allégeront le fardeau du NHS, le système de santé publique anglais. C'est toujours moins cher de payer des cours de gym plutôt que des médicaments. Et ça pourrait aussi avoir un impact écologique sur les routes, plus de vélos que de voitures. C'est d'ailleurs le ministère des Transports qui l'a annoncé. L'équivalent de 14 millions d'euros seront versés pour financer les activités sportives des patients anglais.
Merci Clémence Pénard. Chaque semaine, en partenariat avec Enter, vous nous parlez d'initiatives vertueuses en Europe.
Musique.
Musique, c'est l'heure. Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Léalisa, bonjour à tous.
Et pour finir la semaine en douceur, au menu du jour, de la pop qui transcende les frontières.
L'amitié italo-américaine en chanson aujourd'hui avec le duo Baseball Greg formé par le Californien Samuel Regan et l'Italien Luca Lovizzetto. C'est à Bologne qu'ils se sont rencontrés au printemps 2014 tandis que l'Américain y suivait des études de mathématiques. Le duo enregistre et publie très rapidement une petite poignée de chansons avant de multiplier au fil des ans les allers-retours transatlantiques pour enregistrer deux albums et multiplier les tournées avec un succès croissant. Aujourd'hui, Baseball Greg s'est fixé en Italie et s'apprête à publier un troisième album, Pastimes. Ce sera la semaine prochaine, mais le duo en a déjà distillé une douzaine d'extraits durant l'été, comme cette Sotto Voce que je vous propose et qui est à l'image d'un album pop tout en douceur et délicatesse.
C'était Baseball Greg sur RFI, Accent d'Europe, Olivier Roux à la réalisation. Retrouvez-nous du lundi au vendredi ou à toute heure en podcastant l'émission sur vos plateformes d'écoute. À lundi.